Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Tout pile sur RMC, soyez les bienvenus, bonsoir à tous, c'est l'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Olivier Giroud à mes côtés, membre de la Dream Team RMC Sport, le patron de l'UNSS, le sport scolaire. Salut Olivier.
Salut.
J'ai quelques requêtes, hein. Ma fille va rentrer à l'école, je veux l'inscrire dans des disciplines sportives, je passe par toi.
T'as quel âge?
À 3 ans.
3 ans, non, c'est pas moi.
Tu peux pas m'aider encore.
Il y a les kindergarten, non, ça n'existe pas en France.
Non, pas encore. Et tu sais que c'est dur de trouver du sport à 3 ans.
C'est vrai.
Ouais,
et c'est papa qui doit
courir ouais. C'est ça le problème, hein. Exactement.
C'est toi le prof.
Bon, on en reparlera une prochaine fois. À la une de l'Intégral Sport, le mercato parisien qui s'anime, début de l'opération dégraissage avant le départ au Japon. On va vous donner les toutes dernières infos avec Loïc Tanzi. À 18h15, on va parler, Olivier, de la magnifique opération financière qui a été réalisée par l'AS Saint-Etienne avec la vente du jeune Gournadois. 15 millions d'euros versés par le club autrichien de Salzbourg. Les conséquences de cette vente sur l'avenir du club forésien, là on en parlera avec Timothée Mémon. Et puis à 18h30, retour sur la 10e étape du Tour de France qui vient de s'achever avec la Dream Team d'RMC représentée par Cyril Guimard, la victoire de Magnus Cort Nielsen et Tadej Pogacar qui s'accroche pour quelques secondes à son maillot jaune. À 18h35, on le disait, on va parler de la chute d'un monument du sport français, c'est l'Élan Béarnais, l'un des plus grands clubs de basket en France, rétrogradé administrativement en National 1 hier soir. Pierre Saillant, le dirigeant historique de Pau, sera notre invité. Et puis à 18h45, ça y est, c'est acté, Olivier. On fera le point sur la carte des sites olympiques officiellement validés par le comité d'organisation de Paris 2024. Le CIO aura encore son mot à dire, mais a priori, ça ne fera plus de débat. On sait, ça y est, où se dérouleront les épreuves.
Tu vas nous raconter tout ça.
On va te dire tout ça. C'est parti pour l'Intégral Sport. Et les dossiers mercato s'accélèrent. Au Paris Saint-Germain, à 4 jours du départ au Japon pour un stage de préparation, les dirigeants parisiens commencent le tri au sein de l'effectif. C'est évidemment l'enjeu majeur de l'été, dégraisser le groupe professionnel. On en parle avec Loïc Tanzi, suiveur du PSG, journaliste foot d'RMC. Salut Loïc.
Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça bosse fort en ce moment sur le mercato
ça
parisien.
Essaie, en tout cas.
Et ouais, sur les heures qui passent, évidemment, il y a des infos tous les jours. Et l'info de la journée, mon petit Loïc, c'est que Abdou Diallo, le défenseur sénégalais, ne fera pas partie de cette tournée au Japon, justement, d'un commun accord avec le club. On le laisse à la maison pour qu'il trouve une porte de sortie, justement.
Oui, on sait déjà que le PSG, on en a parlé hier avec Arthur Perrault, le PSG souhaite partir au Japon samedi avec un effectif resserré, entre 23, 24, 25 joueurs maximum. Ça veut dire qu'il y aura une bonne dizaine de joueurs qui seront laissés à Paris, tous les joueurs dont le PSG veut se séparer. Et on sait qu'Abdou Diallo fait partie de cette liste puisqu'il y a eu un accord qui a été trouvé entre Diallo et Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain, pour qu'il reste à Paris, Abdou Diallo, et pour qu'il puisse négocier son départ pendant que le PSG est au Japon. Le PSG qui va enchaîner le Japon et le trophée des champions ensuite en Israël face à Nantes fin juillet, qui sera de retour début août dans la capitale française.
Olivier, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer pour les dirigeants parisiens, justement, faire partir les joueurs dont on ne veut plus. Abdou Diallo, voilà, qui va trouver une porte de sortie, c'est un bon début pour Paris?
Bah écoute, moi j'aurais pas pensé à ce joueur-là, hein, pour partir d'abord, hein, pour dégraisser. On a inventé quelque chose de tout nouveau au PSG. C'est je signe au PSG et je joue plus au foot et je reste. Donc je pense que au final ils vont dégraisser, mais ils vont attendre la fin des contrats des 6 ans de certains joueurs comme Icardi, comme beaucoup, que cela serait utile à faire partir du club. C'est cela que j'aurais laissé à la maison pour qu'ils trouvent un club.
3 fois titulaire, hein, seulement Diallo en Ligue 1 sur la deuxième partie de saison avec le but qui est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remporté avec le Sénégal. Il avait une piste avec Tottenham. Le problème, c'est qu'il est cher. Paris demande 30 millions d'euros pour Diallo. Et ils ont pris Clément Langlais à Barcelone. Il a des pistes en Italie. On sait que Milan était dessus au mois de janvier. Milan est toujours dessus, mais c'est trop cher pour Milan à 30 millions d'euros. Il y a d'autres pistes en Italie, de deux autres grands clubs italiens qui sont dessus. Peut-être.
Ils gardent une cote importante.
Ouais, peut-être l'Inter Milan avec qui le PSG négocie. Le PSG négocie pour Skriniar du côté de l'Inter. On peut imaginer peut-être que le PSG essaye de faire baisser le prix de Skriniar en mettant Abdou Diallo dans la balance. Bien sûr, si Abdou Diallo accepte d'aller à l'Inter.
Supporters parisiens, on vous attend au 32-16 si vous voulez participer justement au débat sur le PSG et à toutes ces infos mercato données par Loïc Tanzi. J'entends ce que tu dis, Olivier, mais il y a quand même une question qu'on peut se poser. D'accord, tu peux rester dans le fameux loft parisien et ne pas jouer, mais les joueurs dont on parle, c'est quand même des joueurs qui ont une stature internationale.
Qui ont eu
une stature internationale.
Qui ont eu.
Ouais, enfin.
Diallo, par exemple.
Diallo, oui.
Icardi qui revient en forme, on peut imaginer qu'il pourrait pourquoi pas retrouver la sélection d'Argentine. Non, tu crois pas. Le regard qui m'a lancé, c'est dommage que je passe la radio.
Okay.
Non, mais je sais pas. Enfin, tu vois.
Bah, écoute, il a fait deux mois magnifiques au PSG, depuis plus rien. Et pire que le jeu lui-même ou les blessures, c'est l'attitude.
Moi, ce que je voulais te dire, c'est que ok, tu peux les mettre dans un loft, mais c'est pas des joueurs que je vois rester 4 ans justement sans rien faire. À un moment, eux aussi, peut-être Loïc, vont se poser la question de se dire bon, quand même.
Quand on regarde la liste, Icardi a dit qu'il voulait rester, par exemple. Wijnaldum, a priori, il a dit qu'il voulait rester. Gay, dont on parle beaucoup en ce moment, il veut rester au PSG. Herrera, il a dit qu'il voulait rester au PSG. Draxler, c'est pareil. Thilo Kehrer, il lui reste un an de contrat. Lui, il est plutôt à dire aussi, ben, je vais attendre à la fin de mon contrat.
Non, mais Thilo Kehrer, il est jeune, il est en sélection d'Allemagne, tu vois. Est-ce que lui, il a intérêt sportivement?
Lui, s'il veut faire 20 matchs dans l'année, il est content. Il est heureux de faire 20 matchs dans l'année au PSG, même si c'est pas 20 matchs titulaires.
Et puis, quand il est parti.
Il est encore là.
Mais il est encore là. Okay.
Lui, il est en même partir.
Ah, c'est différent.
Non, mais Kurzawa, le problème, c'est qu'il.
Et lui, qui n'a pas joué de la saison.
Il ne dit pas non, je ne veux pas partir.
Ouais.
Il dit juste, aujourd'hui, le PSG m'a fait un contrat.
Ouais.
Contrat de 4 ans et demi. Je ne l'ai pas volé, ce contrat-là. Ouais. Si je pars, il faut que le PSG compense le moment qu'il a gagné dans un autre club en me filant, je ne sais pas, s'il gagne 200 000 euros de moins dans le club, le PSG lui file la différence.
Une question toute bête. Il aime encore jouer au foot
Bah, il aimerait bien en trouver un club, mais il est aux conditions financières où il est aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en fait, ça ressemble à comme une longue blessure. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel niveau de footballistique il a.
Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Il vient d'être papa pour la deuxième fois.
Il a accouché.
Non, pas lui, mais pour lui, ça compte le bien-être de sa famille. Et ça compte aussi aujourd'hui de savoir où il va amener sa famille et surtout avec quel salaire.
Tu m'as cité un nom qui m'intéresse parce qu'on en parle beaucoup ces dernières heures, c'est Idrissa Gueye.
Ouais.
Tu me dis que lui veut rester au PSG?
Lui, aujourd'hui, il a eu une réunion avec Luis Campos, comme tous les joueurs au PSG. Luis Campos a fait comprendre à tous les joueurs, aujourd'hui, si vous voulez partir, la porte est ouverte. Sauf que lui, il dit, voilà, j'ai un contrat au PSG, je me sens bien au PSG, c'est un bon contrat au Paris Saint-Germain. Partir, pas forcément, lui, il veut rester. Il dit, si vous m'assurez que ceux qui jouent, ce seront les meilleurs, ce sera au mérite sur le terrain, je veux rester au PSG parce que je pense que j'ai la capacité à m'imposer dans ce club-là.
Champion d'Afrique, hein.
Et donc, si jamais vous, par contre, si vous me dites que ce sera pas au mérite, ce sera, je sais pas moi, si vous êtes représenté par un bon agent, si jamais c'est le coach qui préfère l'un ou l'autre, bah, si vous me le dites de suite, si jamais j'ai aucune chance de jouer et je partirai. Galatasaray fait partie des clubs potentiellement intéressés, mais c'est pas le seul.
Là, pour moi, le cas est différent. Lui, il a joué tout au long de l'année.
Oui.
C'est un joueur sur lequel Mauricio Pochettino s'appuyait quand même lorsqu'il était disponible. Galatasaray, il a eu pas mal de temps de jeu. Voilà. Donc,
il y a des clubs pour partir.
Les cas sont différents. Est-ce qu'il y a d'autres ventes à attendre? Et autre question, Loïc, c'est est-ce qu'on peut mettre des systèmes en place, c'est-à-dire des prêts avec option d'achat, tout ce qui se fait régulièrement pour justement que le PSG puisse absorber une partie des énormes salaires qu'il a donné à ses joueurs? Est-ce que ça, c'est envisageable pour certains?
Oui, complètement. Le PSG n'est pas fermé là-dessus. Après, aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre une option d'achat parce que le PSG va mettre une option d'achat qui est assez haute.
Ouais.
La particularité du club, c'est que cette année, ils veulent pas du tout brader les joueurs. Antero Henrique, qui a la charge justement des ventes, négocie en tout cas le prix des ventes du côté du PSG. Il accepte Diallo, il demande 30 millions d'euros par exemple. Le PSG est OK pour le laisser partir, mais ils veulent pas le brader à 10 millions d'euros. Il n'est pas question de le laisser partir. Dinaï Bimbe, qui est un jeune joueur, le PSG a refusé 5 millions d'euros de Francfort par exemple. Il pourrait dire OK, bon, Dinaï Bimbe, il va faire 3 matchs dans la saison, 5 millions d'euros, merci beaucoup, au revoir à Francfort. C'est pas le cas aujourd'hui du PSG, qui veut pas brader et qui veut vendre les joueurs au prix estimé par le club.
Le problème, c'est que dans le même temps, Paris veut se renforcer. Là aussi, il y a des dossiers chauds. Paris aimerait accélérer justement avant le début de cette tournée au Japon parce que tout va aller très vite. Le trophée des champions arrive rapidement également à disputer face au FC Nantes. L'homme dont on parle le plus aujourd'hui, c'est Hugo Ekitike, ouais, attaquant du Stade de Reims. Le 2002. Dossier est compliqué, mais le joueur veut venir à Paris.
Oui, alors la genèse de ce dossier-là, c'est qu'il y a eu une offre très tôt de Newcastle, qui a fait une offre de 36 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Donc 46 millions d'euros pour un joueur qui est né en 2002. Offre énorme.
Lorsque Reims a vu 46 millions d'euros,
Reims a accepté.
On vous le cède.
Son agent a Ekitike et lui ont discuté avec Newcastle. Ils sont mis d'accord sur un contrat, sauf que Ekitike a dit, je vais attendre un peu quand même avant d'accepter de venir, voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché, voir s'il y a d'autres clubs qui vont venir. Et à d'autres clubs, le PSG est arrivé, sauf que le PSG n'est pas du tout prêt à matcher l'offre de Newcastle. C'est trop cher aujourd'hui pour le PSG, qui pourrait accepter, aller à 10 millions de moins, à 35 millions bonus compris. Et surtout, il y avait un pourcentage à la revente offert par Newcastle à Reims de 12%.
Ah ouais.
C'est pour un joueur 2002, c'est possible hein, de le revendre encore plus cher dans 2 ou 3 ans. Et le PSG, ça ne le fait pas. Le PSG refuse de mettre un pourcentage à la revente. Donc les discussions en sont là aujourd'hui. Elles vont reprendre certainement dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est un dossier qui peut avancer vite.
Et pour toi, parce qu'il y a deux pistes offensives pour le PSG, il y a Hugo Ekitike et Scamacca, l'attaquant de Sassuolo. C'est pas soit l'un soit l'autre, ça peut être les deux aussi. Paris peut faire signer les deux.
En fait, Luis Campos estime qui veut deux numéros 9 au PSG et il écarte un petit peu de sa réflexion Mauro Icardi. Pour lui, Mauro Icardi va quitter le club.
D'accord.
Il espère en tout cas que Mauro Icardi quitte le club avant la fin du mercato. Donc il aimerait bien avoir deux numéros 9 à ce poste-là, Ekitike et Scamacca, parce qu'à mon avis, il ne considère pas que Kylian Mbappé est un numéro 9, un pur numéro 9.
Après, il faut leur trouver du temps de jeu, Olivier. C'est toujours ça le problème. Ouais. C'est qu'on rappelle que devant eux, il y a juste Neymar et Mbappé, par exemple.
Oui, Neymar, je peut-être un peu plus derrière.
Ouais. Ouais, et ce qui est compliqué pour Ekitike, c'est que le problème, c'est que lui, il veut aller au PSG. Mm-hmm. On peut se retrouver dans le cas où, quand tu veux trop aller dans un club, le premier Newcastle qui te veut peut se vexer aussi.
Bien sûr.
Ah oui, après, je pense qu'aujourd'hui, Newcastle ne l'attendra pas.
Non.
Eux, ils vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont aller sur une autre piste. Et après, ce qui est un peu surprenant aussi, c'est qu'au PSG, il y a déjà un 2002. Même année de naissance, Kalimundo, qui sort de 2 saisons pleines avec Lens.
Il n'est pas vraiment
Lens.
Le même profil, mais
qui a aussi un 2002 formé au club, pour le coup. Donc, et lui, pour le coup, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain, peut-être aussi en le mettant dans un deal pour essayer de faire baisser un peu le prix d'un joueur.
C'est intéressant ça, Olivier. C'est un drôle de choix pour un jeune joueur comme Ekitike qui s'est révélé en Ligue 1 la saison dernière avec le Stade de Reims. Peut-être que son rêve, c'est de jouer dans une équipe aussi grande que le PSG. Voilà. Après, il y a l'aspect sportif à prendre en compte. On le disait, il a aucune idée du temps de jeu qu'il pourrait avoir, dont il pourrait bénéficier à Paris. Quoi. C'est toujours ça qui est délicat.
Écoute, d'autres l'ont déjà fait. Hein. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Le PSG, il a cette problématique aussi avec ses jeunes joueurs de pas les brader parce que l'expérience et la qualité du centre de formation aujourd'hui du PSG fait que y a pas mal de joueurs qui sont partis et puis finalement ils se disent on aurait pu les vendre plus cher.
C'est vrai.
Mauro Icardi avait vendu des jeunes joueurs, enfin en tout cas le début de la vente des jeunes joueurs, c'est lui qui l'avait fait, Moussa Diaby, Nkunku à la
Nkunku,
c'est
tout.
Il a plutôt bien vendu pour le coup.
Exactement.
Même si après, c'est des joueurs maintenant qui valent 50-60 millions d'euros.
Loïc, reste là, 18h13 sur RMC l'Intégral Sport. Thomas qui nous appelle au 32-16, Thomas, supporter parisien. Salut Thomas.
Salut à vous, salut messieurs.
Salut Thomas.
Alors, comment tu réagis à toutes ces infos mercato? Est-ce que tu serais favorable d'ailleurs à une arrivée d'Hugo Ekitike au PSG?
Moi, je trouve que c'est bien, que Paris se penche maintenant sur des profils, on va dire, un peu plus Ligue 1, chose qui ne faisait pas avant. Vous allez tout de suite chercher, on va dire, la star à l'étranger. Alors après, c'est pareil, un joueur de ce profil-là, pour se faire une place dans l'effectif, ou quoi que ce soit, ce sera peut-être compliqué. Mais c'est un joueur plein de promesses et qui aurait tout intérêt, à mon avis, à continuer sa progression dans un grand club français comme le PSG, mais je pense que c'est bien. C'est quelque chose, on l'a vu cette année, il a quand même éclaté. Et je trouve que c'est bien que Paris ait le réflexe, on va dire, un peu à la style Bayern, de se positionner un peu sur les pépites du championnat, quoi. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. Scamacca, forcément, comme beaucoup de supporters, évidemment, j'ai pas regardé tous les matchs de Sassuolo cette année. Donc, je ne connais pas le profil, hein, forcément, mais Ekitike, oui, je valide. Évidemment, je valide à 100%. Maintenant, voilà, c'est une autre politique de recrutement que mène Campos en ce moment. Et je trouve que voilà, de toute façon, ça n'a pas forcément fait ses preuves. Enfin, les politiques de recrutement des années précédentes n'ont pas forcément fait leurs preuves. Donc, pourquoi pas se pencher sur des joueurs un peu plus club, on va dire. Voilà.
Oui.
Alors, en gros, il y a encore au moins 4 recrues espérées par le PSG, en plus de Vitinha qui est déjà arrivé. Bah, les deux attaquants, possiblement un milieu de terrain. Skriniar peut être en défense centrale, même 5 recrues, parce qu'il y a peut-être aussi un autre défenseur qui pourrait arriver, profil plutôt défenseur central qui peut jouer côté droit, pour essayer de concurrencer Hakimi sur le côté droit.
Ok, et eh ben voilà. Mais Thomas, Olivier, tu voulais rajouter un truc? Ouais.
Bah, juste, je me pose la question, tu vois, ce revirement d'aller chercher des profils plus jeunes, des profils que tu veux développer à l'intérieur du club, est-ce que c'est le premier effet Galtier un peu?
Effet Campos, ouais.
Bah, c'est ce qu'ils ont dit lors de leur conférence de presse de présentation. Ils ont dit on veut un PSG moins bling bling et plus justement dans la construction. C'est vrai, avec un appui sur le centre de formation. C'est pour ça que certains jeunes font partie de la tournée.
Ouais, les Aïmri, Elfelabutuabu notamment, qui sont exactement. Là. Il y a un autre groupe de jeunes qui a été composé aujourd'hui, qui nous ont groupé l'entraînement aujourd'hui, dont Michu, lui qui a repris l'entraînement une semaine après ses coéquipiers. Ça fait un peu des remous.
Bon, merci Loïc Tanzi.
Avec plaisir.
D'ailleurs, tous ces talents dont tu as parlé, à trouver dans Scouting, sur les applis d'RMC, les plateformes de téléchargement, c'est le podcast d'RMC dédié aux talents français de demain. Alors merci Thomas qui est venu au 32-16. Loïc, t'avais pas une ou deux infos mercato à nous donner avant de partir?
Si, une petite si vous voulez. Benjamin Lecomte, le gardien de l'AS Monaco qui était prêté à l'Atlético de Madrid et qui va probablement rejoindre l'Espagnol Barcelone. On parle encore d'un prêt ou d'un transfert et les deux clubs discutent.
Okay.
Mais Monaco est un peu gourmand. On est dans la fin des négociations. Ça pourrait se faire dans les prochains jours.
Ok. Merci Loïc. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. 18h16 sur RMC. On parle d'un club mythique dans un instant. L'AS Saint-Etienne, Olivier, avec le transfert record réalisé par la SSE hier, une vente à hauteur de 15 millions d'euros, le jeune Lucas Gournadois qui est parti et qui va bien soulager justement le club du Forêt. On va en parler avec le spécialiste évidemment de la Saint-Etienne sur RMC, Timothée Mémon. À tout de suite sur
RMC. RMC Intégral Sport,
Benoît Boutron.
18h18 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec l'excellent Olivier Giraud, évidemment. Olivier, justement, dans un quart d'heure, on va revenir sur la 10e étape du Tour de France. Ça a été animé, hein. Ça y est, l'échappée est allée au bout. Magnus Cort Nielsen a remporté cette étape en costaud. Évidemment, on rappelle que Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune, mais pour une poignée de secondes, il s'est fait peur par rapport à Lennard Kamna qui fait partie de l'échappée du jour. Seulement 11 secondes d'avance désormais pour Tadej Pogacar. Les choses sérieuses qui vont reprendre dès demain, évidemment. Évidemment, on en parlera avec Cyril Guimard. On vous le disait, on voulait parler de l'AS Saint-Etienne, un jackpot qui est plus que bienvenu justement pour les dirigeants stéphanois. Les Verts ont cédé Lucas Gourna, talent formé au club à Salzbourg hier, montant de la transaction 15 millions d'euros. Plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 2, à égalité avec Seru Girassi, à l'époque qui avait quitté Amiens pour rejoindre le Stade Rennais. Et ça fait partie des meilleures ventes stéphanoises, après évidemment des joueurs comme Wesley Fofana ou encore William Saliba. C'est également un record pour le club autrichien de Salzbourg qui dispute régulièrement la Ligue des Champions. C'est l'achat le plus onéreux de l'histoire du club de Salzbourg. Timothée Mémon est avec nous. Salut Timothée.
Salut à tous.
Alors Timothée, déjà tu vas nous rappeler qui est ce Lucas Gourna, grand espoir du centre de formation stéphanois, espoir qui est un peu déçu ces derniers mois, il faut le rappeler quand même.
Oui, c'est vraiment la pépite du centre de formation de Saint-Etienne dans cette génération de jeunes joueurs. Ils étaient nombreux à avoir signé post-Gambardella, même s'il lui était un petit peu plus jeune. C'était vraiment le joueur qui était censé être le joueur d'avenir. À l'époque, certains membres du staff de Claude Puel ne rechignaient pas à l'idée de le comparer à Patrick Vieira à l'avenir, hein, avec beaucoup de travail à accomplir. C'est vrai que c'est un joueur extrêmement talentueux, qui est très bon dans la ressortie de balle, qui gratte beaucoup de ballons et qui est capable, en un mouvement du corps, un peu à la Tanguy Ndombele, de se retourner, de se mettre dans le bon sens et de délivrer des bons ballons dans les espaces parce qu'il a une certaine vision du jeu. Il a déçu. Alors, est-ce qu'il a déçu parce qu'il était dans une équipe en déliquescence
ou alors le contexte était délicat quand même.
Et voilà, le contexte était compliqué pour lui pour sortir son épingle du jeu. Reste qu'il n'a pas systématiquement été titulaire, loin de là. Hein, il y avait devant lui un joueur comme Madi Camara, comme Zaidou Youssouf, avec qui il a partagé ses postes de l'entrejeu, Adil Aouchiche également. Mais quand on y regarde bien, tous ces joueurs-là ont déçu. Alors, il a déçu au même titre que cela. La petite difficulté, et c'est là où on a la sensation que Salzbourg est un bon choix pour lui, elle est peut-être mental, on lui a peut-être dit trop vite, trop jeune, qu'il était si fort que cela à Lucas Gourna, et il a fallu parfois que Claude Puel et que son successeur Pascal Duprat lui remettent un petit peu les pieds sur terre par moment.
Okay.
Donc pas de problème comportemental profond, mais pas d'emballement non plus, peut-être dû à son entourage.
Grosse tête quoi, peut-être.
Donc, Une tête à gonfler et à dégonfler. Mais elle dégonfle hein, quand on la lui dégonfle.
Est-ce que tu as vu la réaction d'Olivier Giraud quand tu as dit ça? Olivier, c'est ce que tu as retenu sur cette histoire. Un joueur bourré de talent, évidemment, mais. Déjà, le contexte stéphanois a été compliqué. On l'a dit avec Timothée, ils ont lutté pour le maintien. Bon, ils ont fini par descendre en Ligue 2. Pour un jeune talent comme ça, pour éclore, c'est pas l'idéal non plus. Faut dire.
C'est pas l'idéal et c'est toujours compliqué pour les jeunes. Timothée le disait tout à l'heure. C'est quand t'es tout jeune et qu'on dit, on te compare à des monuments comme Patrick Vieira, tout de suite. Ce qui se passe dans la tête, pas seulement du joueur, mais dans son entourage, de ses agents, c'est déjà, on le voit déjà dans des clubs incroyables, et il faut assumer, même si t'as du talent, la saison que t'as passée, et que, à un moment, tu passes par ces étapes-là quand t'es jeune, et espérons, tu vois, t'as deux cas, t'as les joueurs qui s'en remettent jamais, et puis t'as ceux qui confirment, et que c'est qu'un passage, en fait.
Alors. Pourquoi on parle de ce transfert aujourd'hui, Timothée? Parce qu'on veut savoir les conséquences qu'il aura justement sur la saison à venir pour l'AS Saint-Etienne. Déjà, est-ce que c'était un départ prévu dans le budget présenté à la DNCG? Est-ce qu'on avait tablé sur plusieurs millions d'euros pour la vente de Gourdin?
Alors, l'AS Saint-Etienne a passé la DNCG sans encombre, ouais, en promettant de vendre pour 20 millions d'euros. Donc c'est sûr que avec ces 15 millions de là, c'est une véritable aubaine, d'autant que il y a de l'argent qui va pouvoir être extrait de la masse salariale qui était très importante. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat, des joueurs très bien payés. On pense à Wahbi Khazri, Romain Amouma, enfin tous ces joueurs là sont partis. Ça libère de la masse salariale, donc ça libère aussi de l'argent à injecter justement pour passer les caps fixés par la DNCG. La conséquence, c'est que du coup Saint-Etienne aujourd'hui n'est plus en obligation de vendre. C'est-à-dire que Saint-Etienne peut après continuer à recruter malin, comme on a dit, parce qu'il n'y a pas non plus des milliers des cents, même s'il y a un petit peu d'argent pour recruter tout de même à Saint-Etienne. Mais il n'y a plus d'obligation. On pense par exemple à Denis Bouanga. Denis Bouanga, c'est un vrai joueur de Ligue 1. On se demanderait un peu pourquoi il resterait en Ligue 2. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas d'offre, et que pour l'instant il est à Saint-Etienne, et que pour l'instant Saint-Etienne n'a pas besoin, n'a pas nécessité de le vendre. Pour le moment, il y a deux postes qui sont prioritaires pour le mercato stéphanois. C'est un deuxième gardien. Le premier, ce sera Étienne Green. La décision avait déjà été prise en fait à la mi-saison de l'année dernière, en disant ne lui fait pas faire la seconde partie de saison parce qu'on a besoin d'un gardien d'expérience
pour essayer Paul Bernardoni en prêt,
exactement, pour essayer d'obtenir le maintien, et puis un attaquant. Il faudra un attaquant. Aujourd'hui, le seul numéro 9 de métier dans l'effectif, enfin ils sont deux, c'est Charles Abbey, mais qui a peut-être trop déçu jusqu'à présent, et Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso qui a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Ajaccio.
Grand artisan de la montée d'Ajaccio en Ligue 1.
Laurent Batless compte sur Jean-Philippe Crasso. Est-ce que Jean-Philippe Crasso, s'étant vu en capacité de jouer la montée avec un club de Ligue 2, est-ce qu'il ne s'imagine pas retenter? Il est pas tout jeune, hein, Jean-Philippe Crasso. Il est arrivé, il n'est pas passé par des centres de formation, il venait d'Épinal. Donc il se dit peut-être que pour lui, c'est le moment d'aller chercher de la Ligue 1, d'aller jouer en Ligue 1. Est-ce que lui a envie de rester à Saint-Etienne? C'est une incertitude. En tout cas, le cas échéant, il faudra recruter deux joueurs, et puis s'il y a d'autres départs, il faudra les compenser.
Ouais. C'est vrai que cette retombée financière de 15 millions d'euros, à ce moment-là du mercato, en plus, Olivier, ça peut quand même soulager la Saint-Etienne. Il n'y a plus de pression, comme nous le disait Timothée, et là, tu peux respirer. On rappelle que la Ligue 2 reprend très tôt cette année, c'est le 30 juillet, je crois, à la toute fin du mois de juillet. Donc là, au moins, ils ont cette soupape, entre guillemets, quoi. Ils savent qu'ils peuvent se renforcer, ils n'ont plus d'obligation de vendre des joueurs.
Écoute, il y a d'autres clubs qui auraient bien voulu avoir cette possibilité-là, hein, parce que, tu vends des joueurs, cette matière-là, et tu peux sauver ton club.
Pense au Girondins de Bordeaux?
Ouais, un petit peu, ouais.
Il leur manque 20 millions, hein.
Exactement, et on rappelle, enfin, vous le précise si vous n'êtes pas au courant, que Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, sera l'invité de l'after ce soir, à partir de 20h, avec Nicolas Jamin et Daniel Riello, notamment. Donc, il viendra répondre à tout cela. Et où en est le dossier Girondins de Bordeaux? On rappelle qu'ils, pour l'instant, ils ont été rétrogradés en National 1. Ce qu'on voulait dire également sur Saint-Etienne, Timothée Mémon, il y a toujours ce mirage de la vente du club qui existe. Où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce qu'on est sûr que le club ne sera pas vendu cette saison? Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir d'actualité dans les prochaines semaines, voire les prochains mois?
Ce qui est intéressant, c'est que je suis venu ici il y a 8 ou 10 jours pour dire que il y avait pas grand-chose. Et parce qu'on dit qu'il y a pas grand-chose, on dit qu'on n'a pas d'informations, mais en fait, on peut pas les inventer. C'est qu'effectivement, c'est au point mort au niveau des acheteurs potentiels. En tout cas, la vente, elle est actée. Roland Meillet a répondu à un long entretien dans la Tribune Le Progrès, le journal de la presse quotidienne régionale à Saint-Étienne, pour expliquer qu'il souhaitait toujours vendre le club. C'est le cas aussi de Bernard Caillazo, qui pendant longtemps voulait garder des fonctions dans le football professionnel.
Oui, il était obligé d'être concerné par un club pour garder des fonctions dans les instances.
Voilà. Il a rendu sa place au conseil d'administration de la Ligue, et surtout les échanges que j'ai eus avec lui dernièrement, et je les crois sincères, sont ceux d'un homme qui a décidé de passer à autre chose.
Tu parles de Caillazo, est-ce qu'on n'a pas loupé le coche à un moment? On n'a pas voulu vendre trop cher ce club et qu'on aurait pu finalement le vendre plus tôt?
Peut-être il y a 5 ans. Peut-être avec la proposition de Pixis à l'époque. Après, je le redis aussi, puisque je parlais de Roland Romillet, de Bernard Caillazo, qui sont vraiment pas en odeur de sainteté. À Saint-Té, passez-moi le mauvais jeu de mots, mais à Saint-Étienne, voilà, ils sont vraiment très mal vus. Voilà, je viens de signaler, de rappeler qu'ils étaient vendeurs. Je prends pas leur défense. Par contre, il y a une chose qui en tant qu'observateur m'inquiète et sur laquelle je ne peux malheureusement pas avoir d'informations, en tout cas pas aujourd'hui, parce que ça n'a jamais fuité, c'est que toutes les personnes, tous les racheteurs potentiels qui sont allés jusqu'à la fameuse data room, après avoir vu ce qu'il y avait dans la data room,
ils sont vite repartis. Ok, d'accord.
Et ça, c'est pas rassurant.
Faut pas y entrer, quoi.
C'est pas rassurant. C'est vrai qu'on peut en rire, Benoît, mais c'est.
Bien sûr.
On en vient vraiment à se poser des questions de ce qui s'y trouve. Alors que pourtant. Extérieurement, le club passe la DNCG, les finances ont l'air plutôt saines, et puis il y a des objectifs.
Et voilà. Ce sera peut-être le dernier mot. Il est important de rappeler le contexte. Ça s'est très mal fini puisque Saint-Étienne est descendu en barrage sur ce match à Geoffroy Guichard face à la JOCR. Envahissement de terrain avec jet de fumigène, etc. Les conséquences ont été lourdes parce que Saint-Étienne démarra avec 3 points de retard le championnat de Ligue 2 et 4 matchs à domicile à huis clos. Donc forcément, il y a eu des sanctions et c'est dire aussi l'atmosphère qui régnait en fin de saison à l'AS Saint-Étienne. Et on comprend pourquoi Roland Romillet et Bernard Caillazo sont en difficulté.
Ce sera à mes yeux l'enjeu principal des semaines à venir, du mois d'août, pour Laurent Batless et l'équipe dirigeante composée de Samuel Rustem, Loïc Perrin et Jean-François Soucas, c'est recréer le lien.
Et on rappelle, la Ligue 2, ça démarre dans 18 jours sur RMC le samedi 30 juillet. Et c'est Saint-Étienne qui ouvrira la saison d'ailleurs. Match à suivre à 15h sur la pelouse de Dijon. Merci Timothée d'avoir été avec nous. Bonne soirée
avec
toi.
Plaisir.
18h28 sur RMC. On accueille le druide dans un instant, Cyril Guimard, qui va venir nous parler du Tour de France, cette 10e étape qui a été remportée par Magnus Cort Nielsen. Les choses sérieuses redémarrent demain et c'est toujours Tadej Pogacar qui porte le maillot jaune. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h32 sur RMC l'Intégral Sport avec Olivier Giraud jusqu'à 19h. Vous trouverez ensuite Christophe Cessieux pour l'After Tour de France. On va en parler de la grande boucle dans un instant avec Cyril Guimard. Retour sur la 10e étape remportée par Magnus Cort Nielsen. Dans 5 minutes, on reçoit également un homme en colère, un homme triste. C'est Pierre Seyant, dirigeant historique de l'Élan Béarnais. On rappelle que le club de basket de Pau-Orthez est rétrogradé administrativement en National 1. Un déficit de 3 millions d'euros. On en parlera avec lui. Et puis à 18h45, on vous dit tout. Ça y est, c'est terminé pour Paris 2024. On connaît la carte des sites olympiques. On fera le point avec Maria Azé. On rejoint donc le druide Cyril Guimard sur les routes du Tour. Salut Cyril, comment ça va?
Bonsoir. Ça va bien, là, nous sommes bien installés comme d'habitude.
Ouais.
Un beau soleil et puis une étape un peu particulière aujourd'hui.
Est-ce que ça t'a plu? Alors cette étape à rebondissement avec une échappée qui va au bout. Rappelons juste tout de même que l'étape a été marquée par un arrêt de la course, hein, évidemment, puisque des militants se sont mis en travers de la route. Il a fallu justement les évacuer et tous les écarts ont été figés. Comment tu as vécu cette étape, Cyril? Est-ce que tu t'es régalé tout de même avec cette échappée qui, je le disais, est enfin allée au bout?
Oui, c'est échappé qui va au bout et oui, on s'est régalé parce que dans la première partie, pendant 60 kilomètres, il y a eu attaque, contre-attaque avec différents coureurs, y compris d'ailleurs Thibaut Pinot qui tentait de se glisser dans un coup qui pourrait éventuellement partir dans les, ce qu'on appelle l'échappé du jour. Et puis au bout de 60 kilomètres, tout le monde en a eu ras-le-bol. Quand je dis tout le monde en a eu ras-le-bol, tout le monde n'avait plus de jambes. Et là, il y a le vrai coup qui est parti avec 25 courants. quatre premiers coureurs qui partent, Van Baarle, Roland, Philippe Gilbert et Luis León Sánchez, rejoint peu de temps après avec Magnus Cort, lui qui va remporter l'étape, le grand Ghana que vous connaissez, et puis Kamna qui fait partie maintenant des coureurs les plus réputés de ce Tour de France. Et puis là, on a vu que l'échappée allait partir, elle s'en va, et puis il y a eu les événements auxquels... vous avez fait allusion, c'est-à-dire bon, une petite manifestation qu'a imposé aux organisateurs tout simplement d'arrêter la course, de prendre les écarts et de faire repartir une fois que tout s'était un petit peu calmé. La course est repartie et ensuite il y avait deux courses. Mmh. Celle pour la victoire d'étape et puis paradoxalement, éventuellement pour un changement de maillot jaune. Visiblement dans le peloton Pogacar n'avait que faire de Kamna à l'avant. À aucun moment il a sollicité ses équipiers pour rouler un peu plus vite. Alors il faut quand même savoir que Pogacar, il essaye de les économiser au maximum, puisqu'il a perdu Langen il y a trois jours et ce matin Georges Bennett
sur Covid.
Sur Covid. Quand vous n'avez plus que 5 équipiers, ils prennent de la valeur, les équipiers.
D'autant plus,
vous le dire.
D'autant plus que les choses sérieuses démarrent demain, avec cette étape entre Albertville et le col du Granon.
On va rentrer dans ce qu'on peut appeler les étapes clés, on va dire les étapes, le cœur des étapes alpestres, avec tous les plus grands sommets que l'on connaît. Donc il va y avoir vraisemblablement du ménage, mais Pogacar aura également besoin de ses équipiers au mieux de leurs conditions physiques, parce qu'il risque quand même d'être échappé. Et puis il a quand même gardé son maillot. Pogacar, il a rien fait pour le gagner, pour le garder, et pour 11 petites secondes. Et voilà. Et vous savez que ça aurait fait plaisir à Kamna de le porter au moins une journée.
Évidemment, bien sûr, et ça peut se comprendre. C'est ce qu'on retient, donc c'est cette échappée au long cours qui est allée au bout, Olivier. Et au moins, c'était le suspense de la fin de course, savoir si Pogacar allait perdre ou non son maillot jaune.
Ouais, c'est ça, et puis... hier, Cyril disait déjà que finalement, cette course d'aujourd'hui, c'était qu'une attente pour celle de demain.
Ouais, c'est vrai.
Et que c'est cette question que j'ai envie de te poser, Cyril, c'est on doit s'attendre à quoi ? Est-ce qu'il va être attaqué à plusieurs reprises, Pogacar ? Est-ce que c'est le moment d'essayer de le déstabiliser ? C'est l'étape de demain.
Alors, cette question est très intéressante parce qu'elle repose... La valeur des individus en termes de potentiel individuel et collectif.
Eh oui.
Et là, quand on commence à regarder ou à lire ou à écouter les réflexions de ses adversaires directs, on se rend compte que le discours change un petit peu. On ne parle plus trop de l'attaquer, de le déstabiliser. On commence à vous dire, il est très fort, il est bon au sprint, il est bon contre la montre, il est bon dans la montagne, et tous les jours, on perd du temps. Et là, j'ai l'impression que d'un seul coup, on arrive à une forme de complexe Pogacar.
Ou du bluff.
Oui, non, mais c'est tout ce que j'ai pu lire, écouter.
C'est de la résignation, tu as raison. On a entendu tous les coureurs hier lors de la journée de repos. Chacun nous a dit bon, il est trop fort. De toute façon, il est trop fort, donc il n'y a quasiment rien à faire.
Alors, c'est vrai qu'une course n'est jamais finie, mais il impressionne tout le monde, y compris d'ailleurs par sa sérénité. Je le regardais encore tout à l'heure là sur le podium. Mmh. Il a un grand sourire, il est calme, le visage est serein, l'œil est vif. T'as pas l'impression qu'il a fait l'étape comme les autres. Hein.
Ouais.
Donc cette forme de résignation est quand même importante, parce que imaginons Ineos attaquant, mais qui vont faire attaquer?
Bah c'est ça, parce que Geraint Thomas est quatrième, Adam Yates est cinquième. Donc
et lequel t'envoie au casse-pipe?
Ah bah ça c'est sûr, ça c'est une vraie question. Lequel est le vrai leader de l'équipe?
Ben pour l'instant ils sont leaders tous les deux, c'est-à-dire que c'est celui qui pètera le plus tard.
Exactement.
Qui fera que c'est l'autre qui sera le vrai leader. Mais moi je ne vois pas honnêtement Geraint Thomas. attaquer et faire exploser le peloton et par voie de conséquence faire exploser Pogacar.
Évidemment.
Bon, vous avez les Jumbo. Là, ils ont un client quand même, mais qui est comme les autres coureurs. À chaque fois qu'il y a eu une accélération de Pogacar, bah, Vingegaard, il a mis un genou à terre.
Et on l'a vu à la super planche des Belles-Filles, notamment.
Et entre autres. Mmh. Et encore, il était le seul à pouvoir à un moment jouer. Cyril. Mais quand vous jouez comme ça, eh bien, et qu'à chaque fois vous vous retrouvez avec un genou à terre, vous réfléchissez avant de rattaquer. Hein.
Dernière question avant de te libérer, puisque tu vas revenir à 19h avec toute l'équipe de l'After Tour. Lennart Kamna est donc deuxième du général à 11 secondes de Pogacar. Qu'est-ce qu'il peut espérer sur cette fin de tour? Est-ce que pour lui, un top 5, un podium est possible, tu penses? Il a le profil?
Non. Ouais. Top 10 non plus. D'accord. Il est un petit peu trop loin, puis il n'a pas couru pour ça.
Bien sûr.
Parce qu'il est allé dans les coups, il s'est fait exploser.
Il va le payer.
Oui, il va le payer. De toute façon, c'est même pas son problème. Quand il va arriver dans le dur, dans un col, il va dévisser, puis il va se mettre dans un petit groupe derrière. Pour lui, la chance, pas la chance de sa vie, parce qu'il a, il a un tel palmarès aujourd'hui. C'est pour 11 petites secondes d'avoir perdu le maillot jaune et surtout d'avoir mal couru sur la dernière ascension parce qu'il a pas su choisir l'objectif qu'il fallait. C'était ou la victoire d'étape ou le maillot. Okay. Il a couru pour la victoire d'étape, il a perdu le maillot, il a perdu l'étape.
Merci Cyril Guimard. On te retrouve dans 20 minutes sur RMC l'After Tour.
Avec plaisir.
Sur la victoire de Kort Nielsen sur cette 10e étape. Pogacar toujours en jaune. Demain, magnifique journée qui vous attend sur les routes du Tour. 18h40, on le disait, Olivier, un monument du sport français est en voie de disparition. Le club de basket de Pau-Orthez, nonuple le champion de France de basket, rétrogradé en National 1 hier par le gendarme financier de la Ligue de basket. L'élan béarnais s'est présenté le mois dernier avec un déficit de 3 millions d'euros. Pau-Orthez, qui on le rappelle, a été racheté en juin 2021 par des propriétaires américains. Et surtout Pau-Orthez qui est resté sur une saison sportive réussie, plus que réussie, même vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste du championnat. On va en parler avec un homme qui est certainement très triste avec toutes ces nouvelles qui tombent. C'est Pierre Seyant, dirigeant historique du club béarnais, puisqu'il a été président durant 41 ans du club de Pau-Orthez. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bah déjà, première question évidente, quel est votre sentiment après la décision qui est tombée hier, donc cette rétrogradation en National 1?
Disons qu'on était préparé, puisqu'il y a 3 semaines, il y avait eu déjà une première décision qui avait été prise par la direction générale contrôle de gestion, et on a déjà pris un coup sur la tête à ce moment-là. Et puis hier, ça a été le deuxième coup, et voilà. Donc aujourd'hui, on est relégué. Le club est relégué en National 1, sous réserve de l'appel auprès de la commission fédérale d'appel. Enfin, c'est pas encore terminé, mais c'est mal parti pour rester dans les ligues professionnelles.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Pierre Seyant?
Ah, écoutez, je n'en sais rien parce que moi, j'ai fini mon tour de piste il y a quelques années. Je suis actionnaire du club, petit actionnaire. Mais bon, je ne me suis plus immiscé dans la vie du club depuis des années. Par contre, je suis toujours président d'honneur et fidèle supporter. Et je le vis très mal, effectivement. Ah oui. Je ne m'attendais pas à ça il y a quelques mois. J'ai eu quelques doutes à partir du mois d'avril. Là, le directeur général a été démis de ses fonctions. Et puis après, il y a eu des démissions de cadres. Bon, dans l'administration, c'était à l'opposé de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc voilà, on est passé plus qu'on a gagné. En gros, c'est ça. Hein, quand vous avez un trou financier, c'est parfois au détriment, non pas des résultats, mais au détriment de l'équilibre économique.
Ben, bien sûr.
On a eu des résultats, c'est vrai, mais comme je disais, moi, à l'époque, quand Antibes ou Villeurbanne ou Limoges connaissaient les problèmes comme on connaît aujourd'hui, je parlais à ce moment-là de titres à crédit. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher maintenant à Jean Merlin d'avoir gagné cette année un titre à crédit. Bon, alors, pour tout vous dire, la Fédération nous empêche d'aller en Coupe d'Europe, et c'est très bien comme ça, parce que Strasbourg, quand on a battu la finale de Coupe de France, méritait la place. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est la double peine, Mais c'est comme ça, et ainsi va la vie, dit-on. Et on est au péché, puni par où on pêche.
Pierre Saillant, qui a été donc dirigeant historique de l'Élan Béarnais, président pendant 41 ans, ce qui est hallucinant, c'est de voir ce qui est en train de sortir dans la presse. Nos confrères de France Bleu, justement, ont publié un document que le groupe de propriétaires américains de l'Élan Béarnais a rendu à la DNCG lundi, le groupe CSG, donc le groupe de, d'actionnaires américains. On peut y trouver la liste des entreprises auxquelles les Américains doivent de l'argent. Et surtout des commentaires à côté. Nous, ça nous fait rire, malheureusement, c'est loin d'être drôle. Parce que, par exemple, il y a une dette de 58 000 euros à SNCF Voyageurs. Et à côté de cette dette, à côté de ce chiffre, en commentaire, il y a marqué SNCF will survive. C'est-à-dire que la SNCF peut survivre à cette dette. Non, mais ça peut nous faire sourire,
c'est
Olivier.
C'est pas le seul commentaire. Hein,
voilà, c'est pas le seul, parce qu'il y a énormément de dettes qui sont listées. Et à côté, on voit souvent des they can wait. C'est-à-dire qu'ils peuvent attendre, avant qu'on les paye.
Et je vais vous dire plus loin, on ne peut pas aujourd'hui occulter d'autres difficultés inhérentes à ce dossier. Moi, je suis très inquiet parce que on parle de repreneurs éventuels, mais repreneurs quoi et à qui?
Eh oui.
Ils vont faire traîner en longueur. La saison démarre dans un mois et demi. Il faut que le calendrier soit fait fin juillet. Donc Orléans va prendre notre place et c'est justifié puisque c'était le premier relégable. Et puis nous, tant pis pour nous. On s'est fait ruger, tromper, tout ce que vous voulez. On est tombé sur des gens qui, en fait, voulaient nous faire payer, quoi. Au lieu de venir aider pour payer, eux, ils voulaient faire payer. Alors, ils ont tout basé sur ce qu'on appelle le phénomène de la tokenisation, l'achat de tokens, bon, lié à la cryptomanie, je ne vous dis pas les dégâts que ça peut provoquer de ci, de là. Nous, en tout cas, l'opération n'a pas réussi, et ils n'ont pas, donc, fait face aux dettes. Et c'est tout simple, hein. C'est un défaut de paiement qui est généralisé. Les joueurs sont partis sans avoir touché les primes. Il semblerait même que le mois de juin ait été pas tout à fait réglé pour les uns par rapport à d'autres. Les petits salaires ont été réglés, mais pas les gros. Enfin, ça, je l'apprends par la bande. Mmh. Mais bon, sur le fond, je ne pense pas qu'on puisse revenir par la voie fédérale à mettre les crédits. On peut pas être.
Voilà,
je
ne
vois pas
compliqué.
La fédération déjuger
ça, c'est sûr.
Le comité supérieur de la direction générale de.
Olivier, ta réaction à toute cette histoire.
Président, parce que moi je vais continuer à vous appeler président, hein, parce que ce phénomène de la tokenisation qu'on pensait fabuleux ne touche pas seulement les Lambernais, hein, il touche aussi le club de Nice au handball où ça n'a pas fonctionné. Le club aussi n'a pas passé la DNCG et sera rétrogradé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est cette descente de deux divisions. Parce que les Lambernais, c'est souvent axé sur sa formation. Et c'est peut-être aussi ça, le plus dur, c'est peut-être perdre le centre de formation du club.
C'est un dégât collatéral.
Ouais.
Un de plus, parce que normalement, c'est une situation qui devrait se terminer ou qui devra se terminer par un dépôt de bilan. Si on ne payait pas les fournisseurs, c'est ce qui va se passer. Et donc, à ce moment-là, s'il y a des repreneurs, ben, ils voudront pas prendre le cas de toutes ces dettes et ils voudront soutenir une nouvelle entité juridique parce que là aussi ça passera par un changement juridique parce que les Américains pour l'instant ne sont pas du tout autorisés dans leur esprit à la Chine de l'Est. Hein, vous savez, quand on a affaire à ce genre-là, quand on parle d'argent avec les Américains, il faut bien se border. Hein. Quand on est mal bordé, on est perdant.
Merci Pierre Saillant d'avoir été avec nous, dirigeant historique de l'Élan Béarnais. On vous le disait, rétrogradé administrativement en National 1. On précise encore une fois, même si l'espoir est mince, que Pau dispose encore d'une possibilité d'appel auprès de la Fédération Française de Basket dans un délai de 10 jours ouvrables. Merci Pierre Saillant d'avoir été avec nous. 18h47 sur RMC, on vient dans un instant. Ça y est, Olivier, on connaît la carte des sites olympiques pour Paris 2024. Il y a encore une petite étape à passer, il faut que ce soit validé par le CIO. En tout cas, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024, s'est mis d'accord en conseil d'administration cet après-midi. Maria Azé va venir tout nous raconter. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h51 sur RMC dans 9 minutes. L'after tour, évidemment, autour de Christophe Cessieux. Retour sur la 10e étape du Tour de France, remportée par Magnus Cort Nielsen. Tadej Pogacar toujours en jaune, avec 11 secondes d'avance sur Lennard Kamna. Et puis, je vous rappelle le grand rendez-vous à 20h dans l'after. Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, qui sera l'invité donc de l'after autour de Nicolas Jamin et de Daniel Riolo. 18h51, un point d'étape important en vue des Jeux de Paris 2024, la validation définitive des sites olympiques. Le conseil d'administration s'est tenu cet après-midi au siège de Paris 2024 à Saint-Denis. Maria Azé, qui est journaliste à RMC Sport, a tout suivi. Salut Maria.
Salut Benoît.
Alors, c'est la question qu'on se posait tous, évidemment. La validation de cette carte et des sites, ça y est, il fallait prendre une décision. On en parlera dans un instant, mais dis-nous déjà, qui était présent à ce conseil d'administration? Il y avait le COJO, évidemment, mais pas seulement.
Oui, il y avait aussi les ministres, la mairie de Paris, et voilà, tout le comité de Paris 2024.
Tous les concernés, voilà. Donc, comité d'organisation, mairie de Paris et ministère. L'enjeu principal, on le disait, c'était le choix des sites. Il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières semaines, hein, des régions qui n'étaient pas contentes, des départements, pardon, qui n'étaient pas satisfaits des sports qu'on leur avait attribués. Les changements qui avaient filtré sont actés désormais. Celui auquel on pense surtout, c'est le basket, avec les phases de poule de basket qui vont se disputer au stade Pierre-Mauroy de Lille. Hein, c'est fait, ça.
Oui, ça s'est fait. Et du coup, l'idée, c'était de permettre aux phases de poule de hand de se jouer dans le hall 6 de la porte de Versailles. Donc ça, ça a été aussi validé par le conseil d'administration. Et ensuite, ce sera présenté au CIO.
Donc ton sport, Olivier Giraud, va démarrer à la porte de Versailles et se terminera au stade Pierre-Mauroy de Lille.
Tu sais, on est des gens bien élevés, au handball, on se plaint pas, voilà, tu nous balades. L'important, c'est de savoir où on va jouer. Si c'est acté, écoute, c'est une très bonne chose. Il faut se dire une chose, c'est que rien n'est simple, surtout quand on te donne un budget très serré.
Bien sûr.
Donc, après, tu sais, quand les Américains et tous, en général, il y a tout le monde qui bouge. Et le problème, c'est que quand tu fais des jeux à minima et que tout est prévu et que tu peux pas rajouter des milliards comme ça, surtout dans la position parlementaire actuelle, il faut trouver des arrangements. J'espère que tout le monde est content et qu'on puisse commencer vraiment à parler des Jeux de manière positive.
Alors, acté pour le comité d'organisation. En revanche, le dernier mot est pour le CIO, Maria.
Oui, c'est ça. Et en fait, la FIBA va donner aussi ses arguments contre, parce qu'on sait que le basket ne veut pas aller jouer à Pierre-Mauroy à Lille. Mmh. Et donc, ils donneront leurs arguments contre. Et Paris 2024 donnera ses arguments pour. Et au final, c'est le CIO qui arbitrera tout ça.
Bon, on n'a pas d'indication de date de décision du CIO pour l'instant.
Non. Le conseil d'administration a eu lieu aujourd'hui. Dans les semaines à venir, ils enverront leurs propositions au CIO. Et après, ça peut durer des mois.
Dans les choix importants, on peut aussi préciser que les épreuves de tir vont se dérouler à Châteauroux. Voilà, ça aussi, ça avait filtré, c'est confirmé désormais.
Ouais, épreuves de tir et de paratir à Châteauroux.
Voilà, et puis la boxe, les tours préliminaires, là aussi, pas à Roland-Garros, ce sera seulement les tours principaux, ce sera à Villepinte dans le 93.
C'est ça, en Seine-Saint-Denis, donc pour la phase préliminaire de boxe. Il y a aussi l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne et les compétitions de volley-ball assis.
Ça veut dire, donc, on attend la décision du CIO, mais en gros, la parole des athlètes aujourd'hui et des fédérations aura du mal à être prise en compte. Parce que c'est vrai que pour le comité d'organisation, Olive, ça y est, c'est fait, c'est acté, on a décidé, on a tranché.
C'est la particularité. Normalement, il n'y a pas de polémique et normalement, les athlètes n'auront jamais dans ces considérations. Tu sais, il y a toujours des visites techniques des fédérations internationales. Et normalement, une fois que ça, c'est acté, et c'est acté très longtemps en avance, on y va. Et si tu pars du principe que à un moment ça a tourné, c'est la FIBA, c'est que la FIBA a dû se faire taper sur les doigts un petit peu d'avoir accepté de prendre un site qui n'a pas convenu à d'autres. Et donc c'est la FIBA qui fout le bordel.
Et puis il y avait un autre dossier à traiter et qui a été traité. Du coup, c'est la cérémonie paralympique aussi. On parle beaucoup de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, celle des Jeux paralympiques. Là aussi, a priori, ça sera en plein cœur de Paris, Maria.
Oui, justement, le Comité paralympique français voulait aussi sa cérémonie d'ouverture parce qu'on sait que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques va être grandiose sur la scène. Et donc, le comité paralympique voulait quelque chose à cette image. Et donc, Paris 2024 leur propose une cérémonie d'ouverture à la Concorde avec une jauge de 28 000 personnes.
Génial.
Qui semble satisfaire le comité paralympique parce que être au pied des Champs-Élysées, un petit peu l'image du handisport au pied des Champs-Élysées, ça semble leur convenir. Donc voilà, c'est ce qui a été validé aujourd'hui.
Ouais, la peur, c'est ça, que ça soit dégradé, que tu vois, certains soient sur la scène et puis qu'on finisse au Stade de France pour les paras.
T'as raison.
Et là, c'est un bon compromis. Et je tiens à préciser un truc quand même parce qu'on parle beaucoup des sites. Des sites de chacun, mais il faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que Paris, c'est juste une ville extraordinaire avec 70 millions de monuments, qui fait que de toute manière, ça va être grandiose. C'est-à-dire que on a ce truc franco-français de se flageller, mais au final, les Jeux vont être juste magnifiques. Et rien que le vrai site, c'est la ville de Paris.
Ah ouais, c'est vrai. C'est tellement beau qu'il y en aura pour tout le monde.
Ben oui.
C'est vrai. Merci Maria Azé d'avoir été là. RMCsport.fr, hein, vous avez le détail de tous les sites, justement, la carte des sites à retrouver. Et on vous rappelle l'info importante, c'est que c'est acté pour le COJO, le comité d'organisation. Mais le dernier mot, le mot final, reviendra au CIO. On n'a pas de date encore, mais c'est bien le comité international olympique qui tranchera à la fin et qui validera tout ça. Merci Maria, merci Olivier d'avoir été là.
Merci.
On te dit à demain.
À demain.
18h-19h.
18h-19h.
Et tout de suite, et ben voilà, on passe la parole à Christophe Cessieux, voilà, qui a pu se réhydrater parce qu'il a eu chaud dans le camion RMC.
Non, il fait bon, on a la clim pour l'after.
Ah oui, c'est vrai. Bien, en plus, vous êtes un peu en altitude, j'imagine, donc ça va.
Exactement. Nous sommes à Megève, une des plus belles stations de sport d'hiver en France. La grande classe sur l'Altiport, où c'est donc un Danois qui s'est imposé aujourd'hui. Magnus Cort Nielsen, qu'on a appris à découvrir depuis le début de ce Tour de France, lui qui a porté le maillot à poids. Eh bien, aujourd'hui, il remporte une étape. C'est son deuxième succès sur les routes du Tour, puisqu'en 2018, il avait déjà remporté une étape. En revanche, eh bien, le rêve est passé tout près de Lennart Kamna, le coureur de la formation Bora, qui a bien failli à la fois remporter l'étape et se vêtir de jaune. Eh bien, il repart bredouille. Le Tour qui a également mis pied à terre aujourd'hui, on vous expliquera ce qui s'est passé. Et puis, on s'intéressera à l'étape de demain, l'une des deux étapes reines de ce Tour de France. La grande bagarre pour le classement général, c'est demain. On l'espère en tout cas. A tout de suite, l'After Tour débute dans un instant.